Bonjour à tous, bonjour Anne-Cécile.
Bonjour Arnaud.
Direction aujourd'hui l'océan Indien, à la découverte d'une ONG qui intervient sur les questions d'environnement à Madagascar.
Et oui, Hommes et Environnement, l'association créée par Olivier Béra, s'est spécialisée dans le développement durable et la préservation de la biodiversité en impliquant les populations locales. Ils luttent notamment contre la déforestation.
La forêt était plus ou moins abondante avant, elle a disparu du fait de l'occupation des sols par l'homme. Et l'érosion s'est accentuée et comme le relief est assez vallonné, l'eau de ruissellement provoque des petites fissures dans le sol qui s'approfondissent progressivement et qui forment ces figures très caractéristiques de Madagascar et tellement caractéristiques que le mot lavaka veut dire une saignée dans une montagne provoquée par l'érosion.
L'Homme et l'Environnement, qui est une ONG fondée en 1993, intervient sur des zones très riches en biodiversité et très menacées à Madagascar, avec un but, faire la démonstration que la préservation de l'environnement et le développement humain peuvent aller de pair. Un travail que nous expliquera son fondateur, Olivier Béra, qui sera avec nous tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission.
À chaque fois qu'un petit nombre d'États, le G8, le G7, le G10, le G20, essaye de faire quelque chose, c'est une négation de la Charte des Nations Unies qui implique que tous les États membres, et ils sont 192 maintenant, doivent travailler ensemble. Dans le domaine de l'environnement, plus que dans n'importe quel autre domaine, il serait absurde de vouloir travailler autrement que sur le plan mondial.
C'est l'avis de Stéphane Hessel. Mais tout de suite, c'est le jeu de cette première partie. On décortique l'actualité environnementale avec nos témoins du jour. Bonjour Pascale Derme.
Bonjour.
Vous êtes directrice de la collection Les Nouvelles Utopies aux éditions Elmer. Vous êtes spécialisée dans les questions d'environnement. Vous avez écrit plusieurs ouvrages sur ce thème. Vous avez contribué au film de Nicolas Hulot, Le syndrome du Titanic, qui sort le 7 octobre. Non, vous dites non.
Le dossier uniquement.
Le dossier uniquement, d'accord. Alors comment est né cet intérêt pour les questions d'environnement ?
Écoutez, mon intérêt, je suis assez secouée en ce moment, à vrai dire, par tout ce qui se passe. Votre émission veut secouer les consciences et moi je suis très secouée en ce moment. Et je le suis depuis déjà une dizaine d'années. Mon intérêt pour l'environnement est né d'une curiosité extrême pour tout ce qui m'entoure. Donc bien évidemment, pour d'abord les aspects un peu scientifiques, l'énergie, les déchets, etc. Ensuite, par une implication quotidienne, donc les éco-gestes, qu'est-ce que je peux faire, etc. Mais je suis avant tout journaliste. Donc j'essaie de garder une objectivité, de faire des enquêtes un peu fouillées. Et là aujourd'hui, je suis un peu au-delà des éco-gestes, au-delà de tout ça. Je suis consciente qu'il faut se poser, ralentir, réfléchir, s'engager, partager. Et c'est un petit peu le chemin sur lequel je suis aujourd'hui. Voilà. Et je pense qu'on est beaucoup sur cette voie-là.
Alors, Pascal, dans l'actualité de cette semaine, eh bien, il y a évidemment les négociations climat aux États-Unis. Il y a eu le sommet sur le climat à l'ouverture de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Hein, vous avez peut-être suivi ça mardi. Et aujourd'hui, c'est la réunion du G20 qui s'ouvre à Pittsburgh, où il sera aussi question des négociations climat, Arnaud.
Les dirigeants des 20 plus grandes économies de la planète doivent tirer les leçons de la crise économique et financière et cherchent à impulser de nouvelles règles du jeu international. Des règles qui doivent permettre de répondre aux défis écologiques et notamment à la demande des pays émergents et des pays en développement qui réclament des aides financières pour lutter contre le réchauffement climatique. Pascale Derme, vous suivez cette négociation, j'imagine, avec beaucoup d'intérêt.
Bien sûr, bien sûr. Ce que je pense en tant que citoyenne, c'est que aujourd'hui, on sait plusieurs choses. On sait que les cartes que les pays émergents et en voie de développement ont une carte technologique à jouer dans cette question-là et qu'ils vont sans doute la saisir et la jouer. On sait aussi que les étapes technologiques, les étapes, on a les moyens technologiques en termes de réduction d'énergie renouvelable, d'efficacité énergétique, de décarbonisation de l'économie. On a les moyens de le faire, de parvenir à ces objectifs. Donc maintenant, la question, en fait, est d'engager tous ces pays, à mon sens, et ça, c'est évidemment pas le citoyen qui peut le faire, mais en tout cas, on peut soutenir ces pays qui le font et aussi soutenir pour qu'une fois que les négociateurs retournent chez eux dans leur pays, ils ne se fassent pas casser par l'opinion et qu'ils aient aussi le soutien des populations.
Et comment vous voyez ce rapport de force entre tous ces pays? Parce qu'on est tous là face à un péril commun et pourtant on a des visions très différentes.
Bien sûr. Alors, nous, pays développés, puisqu'on n'a pas les mêmes objectifs chiffrés, nous, pays développés, on a des objectifs chiffrés, donc moins 40, moins 20, moins 40%. On a
de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Voilà, par rapport à 1990. Et il faut qu'on les tienne, ces objectifs, absolument. Et les pays en voie de développement ont des processus plus modulables. Il faut absolument qu'ils soient aidés financièrement pour atteindre leurs propres objectifs, qui sont un petit peu plus tolérants, bien sûr. Donc, on n'est pas du tout sur les mêmes chemins. Il faut changer de vitesse et aussi peut-être accepter qu'il y ait des prises de conscience nationales qui remontent et qui soient coordonnées au niveau national et que tout ne soit pas décidé au niveau international, que ça change peut-être un peu la donne.
Alors justement, l'Afrique du Sud, qui est le plus gros pollueur du continent africain, est en train d'abandonner un ambitieux plan de lutte contre le réchauffement climatique pour privilégier la croissance de son économie qui souffre, comme beaucoup de pays, de la crise mondiale et aussi d'une carence en énergie. Alors la ministre de l'Environnement, Buleiwa Sonjika, a annoncé mardi qu'il était irréaliste que des pays en développement comme le sien soit obligé de se limiter en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Un avis partagé par les principaux décideurs du pays. C'est une petite enquête de Sophie Rivstein.
Hello, good day. Please may I speak to President Zuma? Thank you.
Quelques dizaines de personnes, les bras en l'air, au milieu d'un carrefour emprunté par des milliers de voitures chaque jour à Johannesburg, téléphone portable en main, ces militants écologistes appellent en même temps à 12h18 la hotline téléphonique du président Zuma. Pour Barry Thompson, il faut faire pression sur le gouvernement avant le sommet de Copenhague.
Même si nous sommes un pays émergent, nous avons la responsabilité de protéger l'environnement. Ce n'est pas une excuse de dire qu'on est un pays émergent et du coup que nous devrions avoir droit à une compensation. C'est absurde. Nous polluons l'atmosphère. Peu importe que nous soyons un pays émergent ou non.
Jacob Zuma promet bien de s'engager dans la lutte contre le changement climatique.
As Africans, we remain deeply concerned.
Nous, les Africains, nous sommes vraiment préoccupés par le réchauffement climatique qui a un impact considérable sur les questions de sécurité alimentaire, de viabilité économique et d'accès à l'eau. Les pauvres sont les plus vulnérables aux catastrophes naturelles liées aux changements météorologiques et à leur impact sur l'économie.
Mais aujourd'hui, le président sud-africain revoit ses ambitions à la baisse. Pas question de ralentir la croissance en prenant des engagements chiffrés sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Avec la récession qui frappe le pays, le gouvernement veut d'abord lutter contre le chômage et la pauvreté. Pour David Fick, chercheur indépendant, cette position n'est pas nouvelle.
We haven't made major...
Nous n'avons fait aucun effort majeur au niveau national pour combattre le réchauffement climatique. Sur la scène internationale, notre position est la suivante. Nous le ferons, mais nous prendrons notre temps pour le faire, et cela de manière progressive. Nous ne ferons rien de vraiment sérieux avant 2025. Notre gouvernement n'a jamais fait de la question environnementale une priorité.
L'Afrique du Sud n'a jamais mis en œuvre un plan ambitieux qui prévoyait des pénalités pour les industriels pollueurs. Il a réponse à la crise énergétique est de poursuivre la dépendance au charbon. L'État n'a jamais octroyé à Eskom, la compagnie publique d'électricité, les fonds nécessaires pour investir dans des sources d'énergie renouvelable. Richard Worthington, chargé du changement climatique chez WWF Afrique du Sud.
Ici, deux nouvelles centrales à charbon vont voir le jour, c'est signé. Et des négociations sont en cours sur la construction de deux autres centrales à charbon et nous allons tout faire pour l'empêcher. Le vrai défi, c'est de faire face aux intérêts d'investisseurs qui veulent gagner beaucoup d'argent très rapidement en continuant d'exploiter les énergies fossiles.
La nation arc-en-ciel va donc demander aux économies riches de mettre la main à la poche pour soutenir les efforts des pays du Sud. Brad Smith, directeur des projets de Greenpeace en Afrique, espère que les négociateurs obtiendront gain de cause.
Je pense que le rôle de l'Afrique du Sud est de jouer un rôle de leader au sein du bloc africain et de s'assurer que les pays en voie de développement obtiennent un très bon accord à Copenhague. Parce que pour lutter et s'adapter au changement climatique, ils ont besoin de beaucoup d'argent, quelque chose comme 140 milliards de dollars par an.
Il faut que les pays riches assument leurs responsabilités. C'est à cette seule condition qu'un accord pourrait être conclu à Copenhague, selon les autorités sud-africaines.
Avec cet exemple de l'Afrique du Sud, Pascal Derme, nous sommes au cœur, on va dire, des contradictions actuelles.
Exactement. Il faut absolument aider les pays émergents et les pays en voie de développement à franchir ces étapes. Encore une fois, technologiquement, on a les moyens et il y a des échanges de technologies qui sont absolument vitales à faire. Il faut accompagner ces efforts tout en, mais la discussion est aussi tout en leur assurant, en respectant leur souveraineté nationale. Donc c'est ça absolument qu'il faut trouver comme compromis. Les aider, les accompagner, mais respecter leur souveraineté nationale et aussi peut-être aussi mettre en place plus de surveillance, de modulation de surveillance qui n'avait pas du tout marché à Kyoto.
Alors, sur un autre thème, en début de semaine, les États européens n'ont pas réussi à se mettre d'accord pour une interdiction mondiale du commerce du thon rouge que proposait notamment la Commission européenne. Et donc, le thon rouge ne sera pas classé en annexe 1 à la CITES, la Convention en charge du commerce international des espèces menacées, qui semblait être, du point de vue des scientifiques et des écologistes, la plus sage décision pour préserver cette espèce qui risque de disparaître à cause de la surpêche et des nombreuses pratiques illégales qui entourent ce commerce. Pascal Derme, vous mangez des sushis au thon rouge?
Très rarement. Très, très rarement.
Oui, parce que
et j'en fais jamais.
Il faut peut-être expliquer.
Je ne sais pas les faire.
C'est le marché du sushi qui est à l'origine de cet extraordinaire marché et intérêt pour le thon rouge. C'est un commerce qui brasse beaucoup d'argent. Hein. C'est finalement une histoire assez emblématique de notre époque, non ?
Oui, c'est vrai que alors les sushis se sont développés. Il y a une mode extraordinaire qui s'est développée dans nos pays.
Pour ceux qui ne savent pas, les sushis, c'est des petits morceaux de poisson cru qu'on mange avec ou sans riz. Hein.
Exactement. Et vous avez pu remarquer que il y en a partout. Ça a fleuri. Alors je ne sais pas exactement pourquoi ni comment ni à quel moment, mais il y en a à tous les coins de rue. Donc bien sûr, on comprend que l'approvisionnement de ces échoppes. Mais ce que je ne sais pas, c'est ce qui a motivé le développement de ces échoppes. Comment ça s'est passé? Effectivement, on comprend qu'après les approvisionnements...
Ce qui est assez extraordinaire dans ce dossier, c'est qu'on a toujours pêché des thons en Méditerranée. C'est d'ailleurs l'espèce emblématique de la Méditerranée. Hein, dans certains pays, sur les pièces de monnaie, pour représenter l'appartenance à la Méditerranée, on mettait un thon rouge. Hein, c'est vraiment une espèce emblématique. On a toujours pêché ce poisson pendant des siècles, et tout ça se passait plutôt bien. Et d'un seul coup, les Japonais ont décidé que le meilleur poisson au monde pour faire les sushis, c'était le thon rouge. Il y a eu un marché extraordinaire qui s'est développé et en l'espace de 20 ans, on va faire disparaître cette espèce, enfin du point de vue des scientifiques. Et là, on est face vraiment à quelque chose qui est tout à fait caractéristique de ce qui se passe dans notre monde, c'est-à-dire qu'on a des besoins extraordinaires pour l'activité économique qui menacent des espèces qu'on avait réussi à préserver jusqu'à présent.
Mais les choses sont réversibles parce qu'il y avait aussi une autre espèce emblématique de Méditerranée qui est le mérou. Qui avait complètement disparu des abords de Porquerolles et de Porquerolles, qui a été protégé et qui maintenant est revenu, et pas du tout miraculeusement, parce qu'il a été protégé. Donc tout n'est pas complètement irréversible. Pour le thon rouge, c'est peut-être même moins bien barré quand même.
Chouette, une bonne nouvelle, merci.
RFI dans ses pas du vent. Alors, en raison d'un mouvement de grève pour protester contre la suppression de 206 postes à RFI, nous ne sommes pas en mesure aujourd'hui de vous proposer notre rendez-vous habituel sur l'actualité environnementale asiatique.
Pour nous écrire, c'est pasduvent@rfi.fr.
Alors, Pascal Derme, vous êtes prodigue en conseils pratiques en tout genre. Vous avez écrit beaucoup de livres sur toutes ces questions. Chez Glénat, vous écrivez « Devenir une éco-maman ou un éco-papa, découvrir le recyclage et la récup, jardiner bio sans souci, rendre l'habitat plus écologique ». Pascal Derme, avec vos livres, on est obligé d'aller vivre, on n'est pas justement obligé d'aller vivre en ermite dans la nature. On peut finalement être dans notre monde écolo-cohérent.
Oui, non, pas l'ermite, même si de temps en temps, je vous avoue que je suis assez tentée.
On l'est tous, hein, mais bon.
Oui, mais bon, voilà. Non, il faut vivre ici et maintenant, et surtout avec ceux qu'on aime. Donc, moi, tous mes conseils pratiques, c'est pas uniquement acheter, pas acheter, etc. Je suis un peu au-delà de ça. J'en ai un peu assez ras-le-bol total de la consommation et de tout ça, vraiment ras-le-bol total. C'est pour ça que sur les déchets, ce qui, évidemment, est-ce qu'on peut admettre que des enfants à l'autre bout du monde inhalent les fumées d'incinération des déchets électroniques qui nous servent 6 mois? Non, on peut pas l'admettre. C'est franchement, on peut pas l'admettre. Est-ce qu'on peut admettre tous ces débordements de consommation? Non, et c'est pas la crise qui ralentit ça, parce que les gens. Alors, il faut évidemment avoir des éco-gestes, des attitudes privilégiées, les produits moins emballés, etc. Il faut appeler les entreprises à produire moins emballés aussi, etc. Il faut faire pression sur les politiques pour y aller. Voilà, bon, donc il faut faire tout ça, les éco-mamans, c'est pas juste acheter des produits bio, surtout pas, c'est accorder du temps à ses enfants, c'est leur transmettre des valeurs dans le monde entier, c'est faire en sorte de refuser les produits qui sont plus toxiques, même dans les pays les plus pauvres. On n'a pas le droit de se laisser intoxiquer, comme vous disiez tout à l'heure, dans les pays avec des revenus les plus bas, c'est eux qui souffrent aussi les plus forts de ces dégradations de l'environnement. Donc nous, en tant que maman, on ne peut pas accepter ça. Donc c'est un engagement un peu secoué en ce moment.
Peut-être aussi les enfants, justement, de ce mirage de la société de consommation. C'est difficile parce que ça fait rêver aussi.
Exactement. Mais ma fille de 8 ans, l'autre jour, en voyant un bébé pour faire vendre une voiture, a hurlé. Et elle m'a dit, mais c'est pas possible d'avoir une tête d'enfant pour vendre une voiture. Donc ces enfants-là, la consommation, la pub, tout ça, il faut absolument dire à tout le monde, évidemment, que c'est des mirages et qu'on peut vivre autrement. Donner du temps à ces enfants, par les temps qui courent pour tout le monde, c'est donner beaucoup, c'est renoncer. On va pas courir les boutiques. Bon, c'est pas du tout un luxe le temps, c'est quelque chose de maîtrisé et de choisi. Donc voilà.
Alors, vous avez justement, vous donnez des quantités d'exemples de bonnes pratiques, etc. Vous n'avez pas quelques bons conseils à nous donner pour aujourd'hui ?
Sur quoi ?
Oh, bah, dans tous les domaines. Vous touchez un petit peu à tout, hein, que ce soit le jardinage, la vie à la maison, le rapport à l'enfant.
D'accord. Bon, alors, si des conseils pratiques.
Bon, pas facile d'en puiser un au milieu de tout ce que vous avez.
Non, mais je vais vous en donner.
C'est pas l'économie d'eau, par exemple, l'eau est un
enjeu crucial. Alors, des éco-gestes, des conseils pratiques. Oui, alors l'économie. Alors, on n'est pas obligé de donner des bains tous les soirs à ses enfants, ça c'est évident. Des conseils pratiques. Si vraiment vous voulez soutenir le commerce équitable, moi je raconte l'histoire des producteurs à mes enfants, par exemple, pour essayer de faire un lien entre la production de ces matières premières, café, chocolat, etc., avec ce qu'on consomme. Donc, racontez-leur l'histoire du commerce équitable. Montrez-leur les labels, parce que les enfants sont assez, et puis vous, adultes, regardez les labels, parce qu'il y a tellement de greenwashing, de publicité mensongère verte, donc regardez les labels, ça c'est un vrai conseil pratique. Sinon, je peux vous garder tout ce qui est récup, etc., pour faire des jouets pour les enfants, ça c'est vraiment marrant.
On pourra en avoir des tonnes conseils. Hein. Merci en tout cas, Pascal Derme, d'être passé dans C'est pas du vent. Vous reviendrez nous parler de votre évolution intérieure dans cette émission. Quant à nous, nous retrouvons après un bref rappel de l'actualité. Nous irons à la rencontre d'une ONG Hommes et Environnement avec son responsable Olivier Béra. À tout de suite.